Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir par téléphone Michel Volkovitch. Alors Michel Volkovitch, pour nos auditeurs, peut-être ça ne vous dira rien, et pourtant, si vous vous intéressez un petit peu à la littérature grecque et aux questions de traduction, vous devriez connaître. Alors, parce que Michel Volkovitch fait partie de ces personnalités, je dirais, quand on est lecteur, il y a des écrivains... Ça, on le sait, les écrivains qui vous marquent, qui sont en bonne place dans votre bibliothèque. Il y a des éditeurs, parfois aussi, que vous suivez fidèlement. Et puis, il y a des traducteurs. Et les traducteurs, on les oublie de moins en moins souvent, mais souvent, on les oubliait. Et Michel Volkovitch est traducteur du grec. C'est grâce à Michel Volkovitch que nous connaissons notamment tout un pan très important de la littérature grecque contemporaine. Bonjour Michel Volkovitch.
Bonjour.
Ça va, vous vous reconnaissez dans cette présentation à peu près ?
Ah oui, tout à fait.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous ? Alors, je regardais un peu votre bio, hein. Vous avez même une page sur Wikipédia, ça, c'est une forme de consécration aujourd'hui.
N'est-ce pas ? Oui, je n'y suis pour rien.
Et vous n'y êtes souvent le cas d'ailleurs. Oui, alors j'ai découvert voilà, que vous êtes né en 47. Alors, moi, je trouve ça impressionnant, parce que 47, je ne sais pas ce qui se passe avec cette année, beaucoup d'écrivains qui comptent beaucoup pour moi sont nés cette même année-là.
C'était le baby-boom, tout simplement.
Voilà, hein, notamment...
Oui, c'était le pic du baby-boom.
C'est le pic du baby-boom, oui, ce qui explique. Hein. Je pense à des gens comme Alphonse Cervera ou Jean Cabré. Et puis...
Jean Schnoz,
voilà. Bon, Moresco aussi, du côté des Italiens. Vous avez commencé, j'ai vu, non pas par la littérature, si je puis dire, votre formation, mais avec la musique. Vous avez pratiqué le violon et le chant choral. Qu'est-ce qui vous a amené à basculer, on va recommencer, prendre ça comme introduction, de l'art musical à l'art littéraire et au goût des langues ?
Eh bien, il y a un lien évident pour moi. C'est toujours de la musique. Les mots, pour moi, c'est de la musique. Donc, avant de me lancer dans mes tentatives musicales, j'avais fait des études littéraires assez poussées. Quand elles se sont terminées, j'ai voulu un peu me vider la tête en pratiquant la musique en amateur de façon très intensive. Et j'aimais la musique. Malheureusement, elle ne m'aimait pas. Donc, au bout de 10 ans, j'arrivais à l'âge de 30 ans... Et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Et c'est là que j'ai découvert la langue grecque et que je me suis mis à la pratiquer. Et j'ai très vite découvert les auteurs grecs. C'était un véritable trésor négligé, inconnu des Français pratiquement. Et donc, j'avais parallèlement des velléités d'écriture qui ne débouchait pas, ça ne sortait pas, j'arrivais pas à écrire. Et donc la traduction du grec, ça a été au début, disons, un succès d'année, un faute de mieux, mais qui est devenu très rapidement une passion. Et au bout d'une dizaine d'années de traduction, ça m'a débloqué pour l'écriture et depuis je mène les deux de front, même si la traduction a quand même pour moi une priorité, parce que c'est bien d'être égoïste, mais enfin il faut s'occuper des autres aussi.
Pourquoi vous trouvez la traduction une activité égoïste ?
Non, je dis que l'écriture, c'est égoïste.
Ah, l'écriture, d'accord.
L'écriture est égoïste, et la traduction, c'est quand même un peu plus altruiste, même si on se fait plaisir aussi.
On s'efface derrière un auteur, c'est ça, un rôle de passeur.
Pas totalement, mais oui, quand même, l'auteur doit rester devant.
Alors, vous avez été aussi, pendant une quarantaine d'années, professeur d'anglais. Et alors, on aurait pu s'attendre à ce que vous traduisiez l'anglais. D'ailleurs, sur votre site internet, de temps en temps, vous vous intéressez au travail de traducteurs de l'anglais. Et pourquoi pas l'anglais, alors? Il y a trop de traducteurs en anglais, pas assez en grec, c'est ça qui vous a... Ou c'est un goût personnel?
À ça, il y a deux raisons. La première, en effet, c'est qu'il y a une concurrence très forte. Donc, si j'avais commencé une carrière de traducteur en anglais, j'aurais dû passer par des œuvres du second rayon, la science-fiction, troisième zone, Harlequin. Alors que pour le grec, j'avais tout de suite accès aux œuvres les plus fortes. Et puis la deuxième raison, c'est que, à mon avis, traduire de l'anglais, c'est impossible. Bon, je sais, d'autres le font. Mais enfin, il y a toujours, même si on est un traducteur génial, une forte déperdition, parce que l'anglais est une langue terrible. Elle est nerveuse, musclée, rapide. Ouais. Ça court, l'anglais. Et le français, il s'essouffle derrière. Donc, j'aurais eu un sentiment de frustration continuelle en traduisant de l'anglais, alors qu'avec le grec, j'arrive à tenir la cadence, à suivre le tempo, car le grec est une langue un peu plus nonchalante. Il y a souvent des mots plus longs, même s'il y a aussi, comme dans toutes les langues, des raccourcis fulgurants.
Oui, alors j'ai Pierre Beautemps qui voulait vous poser une question sur la traduction.
Oui.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
J'ai deux petites questions. J'ai un de vos livres, Le Verbier. Et
oui.
Donc ma première question concerne la ponctuation et puis l'autre, la musique. À propos de la ponctuation... Donc c'est une question océanique. Hein. Donc
oui.
Je me contenterai de vous demander à travers les milliers de pages que vous avez traduites, comment est-ce que vous verriez la relation entre le point virgule, le tiret, la parenthèse, je m'entends pour une incise, pour une rupture, mais partielle, c'est-à-dire quand on ne va pas aller jusqu'au point, quand on est en deçà du point, dans quel cas... Alors, peut-être allez-vous me dire que vous allez prendre exactement ce de l'auteur, vous allez traduire, par exemple, un point-virgule pour un point-virgule. Donc voilà, ça c'était ma première question. La deuxième, c'est puisque vous avez parlé de la musique...
Laisser Michel Volkovitch répondre à cette question sur la ponctuation. Oui. Le grec ponctitule, utilise-t-il la ponctuation un peu comme le français? Ou est-ce qu'il y a aussi un problème de traduction des ponctuations?
Oui, il faudra peut-être dire ce qu'est le verbier d'abord. Le verbier, pour faire bref, c'est un herbier verbal, c'est-à-dire un recueil de bonheur d'écriture et aussi de malheur d'écriture des écrivains français. Donc, au fil de mes lectures, ouais. je note ce qui me frappe dans l'écriture de ces auteurs et j'essaye d'analyser pourquoi ils écrivent bien et quelquefois mal. Et donc, y a un chapitre sur la ponctuation, en effet. S'agissant donc du grec... Et des autres langues, la ponctuation n'est jamais la même d'une langue à l'autre. Bon, il y a quelques universaux, mais enfin, il y a des habitudes différentes. Le grec, par exemple, ponctue moins, il s'exclame moins, par exemple. Donc, je suis obligé de adapter la ponctuation et... disons que c'est souvent dans un sens de clarté, le français a des exigences de clarté plus grandes que le grec, par exemple.
Oui.
Voilà. Cela dit, j'ai pour principe de suivre de respecter le cadre de la phrase, c'est-à-dire que je ne coupe pas les phrases.
Mmh.
voyez, imaginez par exemple Proust traduit dans une langue, une autre langue, une seule phrase en devenant cinq ou six, ce qui est arrivé d'ailleurs. Ça, pour moi, c'est de l'hérésie. Le rythme, le tempo d'un texte vient d'abord de sa découpe en phrases. Si bien que quand on a affaire à de longues phrases, on a besoin de tout l'arsenal de la ponctuation pour que ça reste quand même lisible et clair. C'est là, par exemple, que le point-virgule, dont je suis un ardent défenseur, a une importance parce qu'il permet de mieux baliser le texte. Il y a les séparations par virgule qui sont un premier étage, et puis éventuellement des points-virgules pour faire des mini-coupures à l'intérieur d'une longue phrase.
Donc point virgule,
ça, tout est bien réparti et plus clair. Cela dit, le point-virgule, par exemple, c'est un signe un petit peu plus rare, un petit peu plus recherché, et il ne convient pas dans tous les textes.
Oui.
Donc, j'y ai recours personnellement quand j'écris, bien sûr. Et là encore, ça dépend du genre de texte que j'écris. Et en traduction, c'est pareil. Chez certains auteurs, oui, ça marche. Chez d'autres, ça ferait un petit peu trop petit doigt en l'air, vous voyez.
Oui, trop littéraire. Et le tiret et les parenthèses?
Alors, le tiret et les parenthèses, c'est pas la même chose.
Bien sûr.
Disons que les parenthèses, elles enveloppent l'incise, elles font baisser la voix. La parenthèse, c'est plutôt à mi-voix, un aparté. Alors que le tiret, c'est un peu le contraire. Il rehausse la partie incise et donc la met en valeur. Et c'est pour moi capital d'avoir les deux.
Très intéressant, merci.
Et j'adore en plus les tirets. Regardez les moi tirets aussi. Chez Julien Gracq, par exemple, dans certains textes, qui ont une force quasi électrique. Et il y a quelque chose de magique dans le tiret.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous témoignez, on est dans des choses très techniques, a priori, mais en même temps, vous avez utilisé un vocabulaire qui vient de la musique, vous parlez de tempo, puis on entend comment une ponctuation vient rythmer, poser, avec des pauses ou des silences ou des suspensions, ça vient rythmer le texte. Musicalité d'un texte, quand vos carnets du traducteur, ça j'ai envie de faut le souligner, dans certains volumes, vous publiez à la fin des extraits de carnets du traducteur où vous avez noté vos hésitations, vos difficultés, vos remords, si je puis dire, dans la traduction. Alors, entre la musicalité du texte et la signification du texte, comment vous arbitrez?
Eh bien, c'est la musique qui l'emporte. C'est capital, c'est par sa musique, par son rythme, qu'un texte nous atteint de façon charnelle, sensuelle. Alors évidemment, la signification, c'est important. On va pas écrire n'importe quoi. On va essayer de rester proche des significations. Mais on ne traduit pas des mots. On ne traduit pas des concepts, on traduit des émotions. Les mots dans un texte littéraire, ils sont là pour véhiculer une émotion. Et quelquefois, l'émotion produite par un mot, ou la sensation produite par un mot, n'est pas la même. Donc, à ce moment-là, on va adapter. Un exemple très simple, un texte en portugais avec une mante religieuse. La mante religieuse en portugais, c'est une femme qui prie. C'est une image très positive. Et si on fait passer telle quelle la mante religieuse dans la traduction française,
oui,
ça ne va pas. Et donc, j'emprunte cet exemple à Claire Quéron, une traductrice décédée aujourd'hui, merveilleuse traductrice. Claire Quéron avait traduit la mante religieuse par une coccinelle, là, une bête à bon Dieu.
D'accord.
Bête à bon Dieu, elle avait dit. Vous voyez, ouais. Et donc, elle avait rendu ce que disait le texte original par le moyen de ce qu'un universitaire appellerait un faux sens.
Absolument, oui, oui.
Et c'est une grande leçon. Et c'est un travail perpétuel. C'est la base même de la traduction.
Oui, j'aurais
envie. On traduit des émotions.
Des émotions, j'aurais envie de dire comme ça. Il ne faut pas s'arrêter à la signification des mots, mais trouver le sens du texte, quoi.
Derrière. Tout à fait. On pourrait dire que le traducteur, c'est quelqu'un qui s'efforce de tracer une ligne droite avec un compas. C'est-à-dire que.
Belle image.
C'est-à-dire que tous les mots d'une phrase peuvent être un petit peu à côté. Et l'essentiel, c'est que la phrase dans son ensemble reproduise, autant que faire se peut, le sens global et l'impression globale de la phrase originale.
Alors, nous vous avons contacté aujourd'hui, pas juste pour la question de la traduction, mais aussi pour une activité importante que vous menez depuis quelques années, qui est celle d'éditeur. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à franchir le pas? Alors, vous avez bien sûr traduit, donc des éditeurs vous ont sollicité, hein. Notamment vous avez traduit un auteur, vous avez fait connaître un auteur de noir grec qu'on connaît. C'est pas avant, Petros Markaris. Comment ça a démarré, cette aventure? Ça a démarré avec François Bon et Publinette, ou il y avait déjà des prémices en amont?
Oh, ça a commencé bien plus tôt. Ce n'est pas une vocation pour moi, c'est simplement une nécessité, parce que mes tiroirs ont toujours été pleins de textes merveilleux qui ne trouvaient pas preneur sur le marché de l'édition parce que ça ne se vend pas. Et qu'est-ce qui ne se vend pas? Bien, la poésie, déjà, avec quelques exceptions, et en prose, les nouvelles, pour ne pas parler du théâtre. Voilà. Donc, j'ai créé en 1995 une première maison d'édition, mais tout à fait artisanale, marginale. Ça s'appelait Les Cahiers Grecs. J'ai été relayé par les éditions Desmos, qui étaient elles aussi tout à fait petites et artisanales. Et puis ça a capoté. Et là-dessus, François Bon est arrivé avec Publinette. Mais Publinette, c'est des éditions en ligne, numériques, et donc ça reste très très obscur dans notre pays, ça n'a pas pris vraiment ces éditions. Et c'est pourquoi en 2013, je me suis décidé à me lancer de façon un peu plus organisée, et donc j'ai créé le Miel des Anges, les éditions du Miel des Anges, avec ma compagne qui est graphiste. Ça, c'était un hasard providentiel. Et donc, à nous deux, nous avons ouvert cette boutique qui fonctionne sur la base d'une association loi de 1901. Donc, nous avons des budgets très réduits, nous n'avons pas de distributeurs, pas de diffuseurs, mais nous avons fait mieux que survivre, puisque en 6 ans maintenant, nous avons un catalogue de près de 70 titres. C'est uniquement du grec. Donc on a commencé par la poésie.
Ce qui, en France, effectivement, n'est pas vraiment le genre le plus vendeur.
Vraiment. Il y a une exception brillante, c'est l'anthologie de la poésie grecque contemporaine 1945-2000, parue dans l'excellente série Poésie Gallimard, qui a été un best-seller. On en a vendu près de 10 000 aux dernières nouvelles. Mais c'est fabuleux. Mais ça tient aussi à ce que cette collection est connue, diffusée et tout.
Elle est très en vue, bien sûr.
Elle est très en vue, voilà. Donc nos ventes sont nettement
plus intérieures. Discrètes.
Donc on a commencé par la poésie contemporaine de surcroît, et puis on est passé à des classiques du XXe siècle, disons, puisqu'on a tous les poèmes de Cavafis, tous les poèmes d'un poète nettement moins connu, Kariotakis, donc des années 30, fascinant, et tous les poèmes aussi de Nikos Kavavias, le poète marin tellement aimé des Grecs. Et puis aussi le grand surréaliste Umbericos, trop peu connu également. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas se lancer dans la prose, dans les nouvelles ? Pour les romans, on n'ose pas parce que nous ne sommes pas assez diffusés, mais les nouvelles, puisque personne n'en veut, allons-y. Et donc, on commence à avoir aussi un très beau catalogue avec des grands anciens encore vivants comme Nola Souska ou Papa Dimitrakopoulos. Il y a un nom qui n'est pas très vendeur non plus. Mais aussi des jeunes très talentueux comme Papa Moskos, etc. Et puis, on s'est lancé dans ce qui est le comble du suicide commercial, c'est-à-dire l'édition théâtrale. Et nous avons maintenant une collection d'une vingtaine de pièces avec les grands noms du théâtre contemporain et même ultra-contemporain. Et là aussi, il y a des choses passionnantes, saisissantes, avec en particulier les deux grands provocateurs, Dimitris Dimitriadis et Yanis Mavritsakis. Et parallèlement, à côté de ces œuvres très scandaleuses, les délicieuses pièces pour jeunes publics de Xenia Kaloyopoulou qui font un tabac en Grèce.
Alors, à vous entendre et puis à regarder ce que vous publiez, on se dit que la littérature grecque, c'est j'allais dire un archipel. Oui, alors ça correspond aux côtes grecques un petit peu lorsque l'on dit ça. Mais c'est très très riche. Alors, est-ce que c'est parce qu'on méconnaît complètement et qu'on découvre tout ? On a l'impression, en feuilletant le catalogue du Miel des Anges, que les découvertes, on ne va jamais arrêter. Ça me fait penser à la littérature des Caraïbes, où c'est pareil. Il y a des choses, on se rend pas compte à quel point il y a de nombre d'auteurs qui écrivent, que tout le monde écrit là-bas ou quoi ?
Tout le monde écrit des poèmes. Ça, il y a une foule de poètes. Tout à fait amateurs, bien sûr, ont publié énormément de poésie, c'est frappant. La poésie, c'est leur langue maternelle. Ils ont ça dans le sang. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en prose, on remarque qu'il y a d'excellents romans, des romans géniaux, mais leur distance de prédilection, c'est quand même la nouvelle. Ils ont des nouvellistes fabuleux et la nouvelle est plus proche de la poésie parce que la langue est plus dense et puis on est plus proche de l'émotion spontanée du poème.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un genre qui est peu édité en France. Je pense qu'il est plus lu qu'il n'est édité. Il y a plus d'amateurs que ça parce que c'est un genre qui correspond à la vie contemporaine, des textes courts dans lesquels on peut piocher, revenir.
Oui, et je ne comprends pas cette désaffection de la nouvelle. Non, c'est pas propre à la France, mais j'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, la nouvelle est mieux aimée.
Et oui, donc, les short stories américaines sont très très lues. Oui,
oui, oui, oui, oui, oui, oui.
Ou au Japon.
Voilà, alors, des auteurs, bon, vous en avez cité tout plein, un site qui est très bien fait, moi, que j'encourage à aller voir, hein, du Miel des Anges, vous pourrez découvrir, parce que je pense que nos auditeurs n'ont pas mémorisé tous les noms que vous avez cités. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, peut-être vous pouvez nous en dire deux mots, c'est Mihalis Ganas.
Oui.
Vous avez publié un petit texte chez Publinet qui était Marâtre Patrie, et puis vous avez repris la poésie. On a deux volumes de poésie de Mihalis Ganas, et puis pour un autre éditeur, vous avez traduit aussi des nouvelles, quelques femmes, des nouvelles portraits, oui. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que c'est un auteur important pour vous ou... J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je conseille pour aborder Mihalis Ganas les quelques femmes, le recueil publié chez Kidam. Ce sont des textes très brefs qui sont des portraits de femmes, des femmes très, très variées. et qui sont un pur délice. Car là, le poète se fait prosateur et il cisèle des petits bijoux et on se prend à tomber amoureux de toutes ces femmes, jeunes ou vieilles. Et Ganas est essentiellement poète, il appartient à ma génération, il est né en 44, il est né en Épire, il a eu une enfance mouvementée, donc dans un tout petit village perdu, il est exilé pour raisons politiques alors qu'il a 5 ans, il passe sa petite enfance en Hongrie, il revient en Grèce dans ce village perdu, dans la pauvreté, il s'installe à Athènes à 20 ans et bon, bah, il y survit avec divers métiers. Et en même temps, il développe une œuvre poétique qui est pour moi peut-être la plus belle, la plus forte de sa génération. C'est une œuvre qui dit en même temps beaucoup de choses sur la Grèce, puisque elle constitue un dialogue entre la Grèce du passé, celle qu'il a vécue, la Grèce paysanne, des traditions anciennes, et la Grèce de la modernité, celle d'Athènes, la Grèce contemporaine. Et une bonne partie de cette littérature grecque d'aujourd'hui reprend cet infini dialogue, et les gens de cette génération sont les derniers à avoir connu cette époque, et donc, elle brille dans leurs œuvres de ces derniers feux. Et c'est un poète remarquable par la force de ses images, l'intensité de ses vers. Et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il passe avec aisance de du vers libre au poème en prose et au vers rythmé au vers classique. Et c'est aussi une caractéristique de cette poésie grecque contemporaine. Et beaucoup de poètes ont conservé le vers ancien, le vers régulier, à côté éventuellement du vers libre contemporain. Et ça c'est un régal pour moi parce que j'adore traduire les vers et je traduis toujours les vers réguliers en vers réguliers français. C'est une gymnastique qui m'enchante à chaque fois, même si c'est d'une certaine difficulté, bien sûr. Mais la difficulté, c'est l'une des drogues du traducteur.
Bien, eh bien, alors on va vous laisser continuer à vous droguer à coups de traduction pour notre plus grand plaisir, si je puis dire. Merci beaucoup, Michel Volkovitch. En tout cas, j'espère que cet échange que nous avons eu aura donné envie à nos auditeurs d'aller découvrir la littérature grecque contemporaine. Non, la littérature grecque, ce n'est pas simplement Eschyle, Euripide, Aristophane et compagnie. Il y a une littérature bien vivante aujourd'hui et il faut aller la découvrir. Quoi.
Et pas faire de je me permets un petit message publicitaire. Alors là, je ne parle plus du Mies des Anges, mais de deux valeureux éditeurs qui s'occupent du grec et dont les catalogues sont remarquables. Il y a les éditions Kidam pour l'ultra contemporain et les éditions Cambourakis, plutôt tournées vers le patrimoine, mais où l'on découvre maintenant aussi des textes contemporains. Donc longue vie à eux aussi.
Bien, merci beaucoup Michel Volkovitch, et puis j'espère pouvoir vous croiser à d'autres occasions. Merci de ces quelques minutes que vous nous avez accordées.
Merci à vous.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.